Vous êtes sur RTL.
RTL. Le journal inattendu.
Il se passe quelque chose de bizarre. Où est le tableau ?
Quel tableau ?
Croyez-moi, il se passe quelque chose de bizarre. Est-ce que quelqu'un a vu ma montre ? On me l'a volée.
Personne l'a volée.
Comment ça, personne l'a volée ?
12h30, 13h30.
And the Oscar goes to Christopher Hampton and Florian Zeller, the father.
Florian Zeller est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Je ne quitterai pas mon appartement. Je ne quitterai pas mon appartement.
Who exactly am I?
Qui suis-je exactement?
Le journal inattendu. Florian Zeller, Anaïs Bouton.
Qui suis-je exactement? C'est la question que se pose Anthony Hopkins dans votre film The Father, votre film bouleversant, on va le voir tout au long de cette heure. Bonjour Florian.
Bonjour
Zeller.
Anaïs. Merci de cet accueil.
Bienvenue dans votre journal inattendu, on est ensemble une heure en direct pour parler d'actualité, pour parler du monde selon vous, qui êtes le dramaturge français vivant le plus joué de la planète tout simplement. L'écrivain multiprimé, vous êtes aussi l'homme aux deux Oscars pour son premier film Mazette, hein. Meilleur acteur, meilleure adaptation. On vient d'entendre un extrait et la bande-annonce. Alors ce film, c'est une plongée angoissante dans la tête d'un vieil homme qui perd peu à peu la mémoire. C'est presque un thriller à la fois violent et tendre.
Oui, c'est vrai qu'il y a des équations du thriller psychologique, parce que je voulais que le spectateur soit pas simplement en train d'assister à une histoire, mais vivre une expérience. Que ce soit l'expérience de ce que ça peut vouloir dire de perdre ses propres repères et de douter de la réalité qui se trouve devant nous.
Allez, on a une heure ensemble, mais vous savez, il y a une tradition dans cette émission, c'est celle de l'autoportrait. Vous avez une minute pour vous présenter. Qui êtes-vous, Florian Zeller?
Alors, je m'appelle Florian Zeller, j'ai 41 ans, je suis écrivain et réalisateur. Et j'ai toujours eu l'impression que seules deux choses rendaient la vie intéressante, l'amour et la beauté. L'amour, évidemment, mais aussi la beauté sous toutes ses formes, et notamment l'émotion que l'on peut ressentir devant un tableau, en regardant un film ou en écoutant de la musique. Et j'avoue avoir du mal à m'intéresser au reste. Et c'est cette idée obsédante que j'ai tenté de suivre et autour de laquelle se sont cristallisés tous mes rêves. D'abord à travers l'écriture de romans, puis grâce au théâtre, où j'ai eu la chance de travailler avec des acteurs que j'admire et de partager de grandes émotions avec eux, mais aussi avec le public. Et cette découverte que les émotions prennent toutes leurs dimensions dès lors qu'elles sont partagées a sans doute été une des découvertes les plus importantes pour moi. Et enfin, parallèlement au théâtre, a grandi un autre rêve qui est celui du cinéma, qui me semble être l'art suprême parce qu'il rassemble tous les autres, l'image, la musique et l'écriture. C'est ce rêve qui m'a conduit à réaliser ce premier film dont on vient de parler, The Father.
Alors, en vous entendant, on se dit que décidément, dans l'autoportrait, ce qui n'est pas dit est aussi intéressant que ce qui est dit, pour reprendre un peu Harold Pinter, que vous adorez, comment saisir l'importance de ce qui n'est pas dit. Pour ceux qui vous connaissent et qu'on a interrogé pour faire cette émission, vous êtes aussi un homme hors norme qui a toutes les compétences, pas du tout un poète maudit, un génie des mots, doublé d'un homme qui a les pieds sur terre, d'une humilité inestimable. On va voir ça. Mais tout de suite, l'actualité de ce 5 juin 2021 avec vous, Hortense Crépin, bonjour.
Bonjour Anaïs, bonjour Florian Zeller, bonjour à toutes et à tous. Réconcilier gouvernement, juges et policiers, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. Le président annonce ce matin le lancement d'états généraux de la justice. On reviendra aussi sur Mimi Marchand, la papesse de la presse People est mise en examen dans le cadre de l'enquête sur le financement présumé illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et puis le nez qui coule, les yeux qui rougissent, vous connaissez forcément ça si vous êtes allergique. Un pic de pollen vient d'être enregistré. Et si le meilleur allié pour les supporter, c'était tout simplement le masque. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est le retour du soleil cet après-midi?
Alors pour l'ouest et pour le sud, oui, tout va bien. Un grand beau temps cet après-midi avec un petit peu de grisaille quand même sur la pointe Finistère. Entre les Hauts-de-France et l'Est, là c'est une autre histoire. On a beaucoup de nuages, des averses orageuses qui circulent de l'Alsace à la Bourgogne et jusqu'à la région Rhône-Alpes, et ce sera le cas tout au long de l'après-midi. Côté température, on va avoir une fourchette de 16 à 30 degrés entre Dunkerque et Nîmes, 19 à Dijon, 23 à Paris, 24 à Bordeaux et à Grenoble.
Merci beaucoup Valérie. À 13h, c'est vous, Florian Zeller, qui ferez la météo sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
La nouvelle a un peu surpris tout le monde en fin de matinée, alors que l'institution est très critiquée ces derniers mois. Emmanuel Macron annonce le lancement d'états généraux de la justice. L'objectif, William Galibert, c'est clairement d'apaiser les tensions entre le gouvernement, la police et les magistrats.
Oui, c'est vraiment ça. Essayer de ramener un peu de sérénité. On connaît tous le contexte avec comme point d'orgue des tensions ces milliers de policiers rassemblés devant l'Assemblée pour crier au laxisme face aux agressions dont ils sont victimes. Le problème de la police, c'est la justice, ose carrément dire le syndicat de police Alliance. Résultat, les magistrats, à leur tour, se sentent dénigrés. Ils ont demandé à être reçus par Emmanuel Macron. Le rendez-vous a eu lieu hier en toute discrétion à l'Élysée, notamment avec François Molins, l'ancien procureur de Paris, membre du Conseil supérieur de la magistrature. Des états généraux de la justice vont donc voir le jour. On n'en connaît pas encore les contours, mais la méthode est très macronienne. On met tout le monde autour d'une table pour remettre les choses à plat, ou en tout cas pour essayer de le faire. Le chef de l'État avait opéré de la sorte pour la police avec le Beauvau de la sécurité ou avec l'hôpital et le Ségur de la santé. Voilà donc le dernier né qu'on pourrait aussi appeler le Vendôme de la justice.
William Galibert du service politique de RTL. Après 48 heures de garde à vue, la très influente Mimi Marchand est mise en examen, et cela dans le cadre du financement libyen présumé illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Concrètement, Sinamir, on reproche à la reine de la presse People d'avoir organisé en fin d'année dernière la rétractation du sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine.
Exactement. En fait, petit rappel, c'est une interview qui est au centre de ce dossier, une interview donnée à Paris Match et organisée avec la société de Michel Marchand Best Image. Un entretien où, pour la première fois, en novembre dernier, Ziad Takieddine, en fuite au Liban, affirme face caméra que Nicolas Sarkozy n'a jamais reçu d'argent de la Libye pour financer sa campagne de 2007. Un retour complet, inédit, sur tout ce qu'il avait toujours dit aux juges et même dans la presse par le passé. Le problème pour les enquêteurs, c'est que Ziad Takieddine est aujourd'hui dans une situation financière difficile, que ses avoirs ont été saisis et que certains de ses proches, notamment son avocat libanais, évoque une grosse somme d'argent, une négociation pour organiser cette interview. 1er août, la justice sait en plus que Mimi Marchand connaît bien le couple Sarkozy-Bruni, que l'ancien président est aussi au conseil d'administration du groupe de presse propriétaire de Paris Match, 2e août. Et enfin, Ziad Takieddine lui-même, à nouveau interrogé par des juges depuis, est revenu sur cette rétractation. Tout ça a mené à cette mise en examen, une décision que conteste l'avocate de Michel Marchand, que nous avons joint au téléphone il y a quelques minutes, maître Caroline Taubi. Elle explique pour sa part que la reine de la presse People est restée dans son rôle et n'a fait, je cite, qu'organiser les photos et l'interview dans le périmètre de son métier.
Les précisions de Sinamir.
Alors c'est un mode de grève assez inédit qu'on choisit une centaine d'employés d'une usine en Isère, Hortense.
Oui, ils ont décidé de travailler deux fois plus pour éviter sa fermeture. Ça se passe dans l'entreprise Ferropem, dans la vallée de la Romanche. Elle fabrique du silicium, notamment pour des panneaux photovoltaïques. Et à leur côté, aujourd'hui, un soutien politique, le chef des Insoumis et candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon.
Je voudrais qu'il y ait un plan, une filière de la production du silicium, parce que celui-ci est le matériau de l'avenir. Et nous avons intérêt à le produire au plus près des besoins, c'est-à-dire ici même. Avec cette entreprise, ce que nous défendons, c'est l'intérêt général. Mon passage ici n'est destiné qu'à une chose, faire honte au président de la République qui ne s'intéresse pas à ce qui compte pour l'avenir de la patrie et fait une mauvaise campagne électorale en me courant derrière sur les endroits où je vais. Vous avez peut-être une chance de le voir venir dans le coin. Parce que, ben non, faudra... Ah ben non. Mais non, faites pas où, ça serait faux. Au contraire, faut dire, allez, Macron à Romanche, Macron à Romanche, Macron à Romanche. Et voilà, il va venir. Il faut qu'il s'occupe de ça.
Jean-Luc Mélenchon, un des propos recueillis par Serge Puyot.
Florian Zeller, c'est votre journal inattendu. Vous en êtes un peu le rédacteur en chef. Un cinéma social, un peu comme ce que peut faire Stéphane Brisé en France, par exemple. Vous pourriez faire un film social ?
Je crois que, sincèrement, c'est moins ma sensibilité que celle d'autres. Mais je peux le regarder avec plaisir, intérêt. Je trouve que le cinéma, c'est comme un miroir dans lequel on vient se regarder. Parfois, c'est un miroir déformant, mais dans lequel on vient essayer de se comprendre, de se chercher. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, le territoire qui m'intéresse, peut-être, est plus intime ou plus émotionnel.
Ok, merci. Une pause et dans un instant, le masque pourrait-il nous sauver des allergies au pollen ? On voit ça dans un instant, dans le journal inattendu de Florian Zeller.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Florian Zeller et Anaïs Bouton.
Florian Zeller, c'est donc votre journal inattendu. Vous avez réalisé un film magnifique, absolument poignant, The Father, avec Anthony Hopkins, qui parle d'un sujet qui est en fait un sujet d'actualité, on va le voir tout à l'heure. Mais tout de suite, la suite de votre journal, Hortense Crépin.
Alors, les symptômes ne trompent pas, les yeux rouges, le nez qui coule, les pollens sont bien là. Le réseau national de surveillance aérobiologique a enregistré un pic hier. Alors, pour s'en protéger, on connaît les remèdes classiques, les médicaments, bien se laver les cheveux, porter des lunettes de soleil. Mais il y a un allié assez inattendu cette année, un allié qui fait d'ailleurs partie de notre quotidien, c'est le masque. Le docteur Christian de Bavelard est allergologue à Boulogne-sur-Mer.
Le port du masque a le mérite de limiter la pénétration des pollens dans les voies respiratoires. Et les Japonais s'en servent déjà depuis très longtemps à cet effet, et non pas seulement pour se protéger des maladies. Cette protection, on pense qu'elle sera surtout efficace dans les cas d'allergie modérée. Chez les grands allergiques, l'effet sera plus négligeable, surtout par temps de vent, parce que le pollen va pouvoir pénétrer par les ouvertures du masque. L'an dernier, déjà, certaines personnes portaient déjà des masques et ont signalé être moins gênées que les autres années. Donc, je pense qu'il faut quand même maintenir les mesures de précaution, se laver, se rincer les cheveux le soir avant de se coucher, éviter de rouler en voiture, fenêtre ouverte. Mais indubitablement, il y aura une protection par les masques.
Le docteur Christian de Bavelard, joint par Julien Fautrin.
Le masque, vous le portez, Florian Zeller. Vous êtes un peu hypochondriaque, nous a-t-on dit, dans votre entourage.
Non, mais c'est vrai que je fais partie des gens qui ont été particulièrement précautionneux.
Pendant la pandémie ?
Pendant la pandémie, oui.
D'accord. Et puis, ne plus repasser forcément par son médecin généraliste pour renouveler ses ordonnances. Ben, c'est désormais possible, Hortense.
Oui, grâce à un pharmacien correspondant, il vous suffit maintenant de signaler son nom à l'assurance maladie. Il pourra alors vous renouveler vos ordonnances, pratique notamment pour les personnes âgées qui ont souvent des traitements longs, ou pour ceux qui souffrent de maladies chroniques comme l'hypertension par exemple. Alors, pour l'instant, la procédure se fait seulement sur papier, mais dans quelques mois, cela pourra se faire en ligne.
En sport, hein, beau casting cet après-midi sur la terre battue de Roland-Garros, Hortense.
Raphaël Nadal, qui vise un 14e titre cette année, porte d'Auteuil, va affronter le Britannique Norri. Novak Djokovic, lui, sera face au Lituanien Berankis. Et puis Roger Federer contre l'Allemand Kupfer. On fera un point sur toutes les rencontres du jour à 13h. Et puis en rugby, dernière journée ce soir du top 14 et de gros enjeux. Clermont, le Stade français, Toulon et Castres prétendent aux deux derniers tickets pour la phase finale. Multiplex avec tous les matchs prévus à 21h05. Enfin, en football, à moins d'une semaine maintenant du coup d'envoi de l'Euro, ne manquez pas les confidences de Didier Deschamps. Entretien avec le sélectionneur des Bleus à retrouver ce soir dans On refait le match. Ce sera à partir de 18h30 avec Christian Olivier et ses chroniqueurs.
Merci beaucoup Hortense Crépin pour ce journal. Alors, Florian Zeller, c'est votre journal inattendu, votre film The Father, c'est une plongée dans la tête d'un vieil homme, Anthony Hopkins, qui perd peu à peu le contrôle de sa vie, de son histoire, de sa mémoire. Et c'est aussi le combat de sa fille, qui est magnifiquement interprétée par Olivia Colman, l'amour de sa fille, sa générosité pour lui. C'est une situation qui est familière à beaucoup de Français. Est-ce que le cinéma, ça doit être le miroir de l'époque ou de ce qu'on vit ?
Oui, je crois, mais pas forcément de façon consciente. Moi, quand j'ai commencé à écrire cette pièce, parce que c'est d'abord une pièce, puis ce film, peut-être je m'appuyais sur des souvenirs de mon expérience personnelle, mais j'avais conscience que, comme vous l'avez dit, tout le monde, en fait, connaît ce sujet-là, ou le connaîtra, ou peut être traversé par cette inquiétude-là, c'est-à-dire le souvenir de ses grands-parents, ou l'inquiétude...
Vous, c'était votre grand-mère, n'est-ce pas ?
Moi, c'était ma grand-mère, où j'ai été à ses côtés quand j'avais 15 ans, qu'elle commençait à souffrir de démence sénile, et je me suis retrouvé dans cette position d'impuissance. Vous savez, quand on aime quelqu'un et qu'on comprend aussi que l'amour ne suffit pas. Et c'est quelque chose, c'est une expérience extrêmement difficile, mais voilà, l'art, le cinéma en tout cas, permet aussi de transformer les choses difficiles en beauté. Et ça devient de la beauté aussi quand on peut justement le partager, se souvenir à travers une pièce de théâtre ou à travers un film, que finalement on appartient à quelque chose de plus large que soi-même, qu'on est tous un peu dans le même bateau de cette humanité qui tangue, et que quelque part ça fait du bien aussi de se souvenir de ça. Il y a une sorte de consolation à se souvenir lié, à se souvenir qu'on est lié, quoi, même dans l'épreuve. Et vous l'avez dit, c'est l'histoire de cette fille aimante, interprétée par Olivia Colman, qui est pour moi une tellement belle actrice, et qui, parce que ça touche ce moment si difficile où en fait on devient un peu le parent de ses propres parents, et il n'y a pas de bonne réponse. Et d'ailleurs, le cinéma, c'est pour ça tout à l'heure je répondais sur le cinéma social. Je trouve que le cinéma, c'est pas un endroit où on délivre un message, où on apporte des réponses. C'est plutôt un endroit où on pose des questions, et chacun finalement, avec son histoire personnelle, sa sensibilité, apporte les réponses qui lui conviennent. qu'est-ce qu'il faut faire quand on a quelqu'un qu'on aime qui commence à perdre ses repères? Est-ce qu'il est temps de le placer dans une institution ou non? Qu'est-ce que ça implique? Je crois que c'est des décisions douloureuses et intimes, mais le cinéma peut justement explorer ses ambivalences, ses paradoxes, ses difficultés, pour tenter d'en faire un moment partagé.
Alors vous avez parlé d'Olivia Colman, qui est exceptionnelle dans le film, et vous avez choisi surtout, vous avez choisi Anthony Hopkins. C'était quand même un peu un risque, parce qu'il avait déjà eu un Oscar pour Le silence des agneaux. C'est un acteur qui est machiavélique, contrôlant, sulfureux. Là, il semble sincère, dans la retenue, démuni. Vous avez sorti lui quelque chose dont on n'avait pas l'habitude.
En tout cas, c'était mon espérance. C'est-à-dire que quand je suis allé le voir, et ça a été l'objet de notre première discussion, c'était pas pour lui demander de refaire ce qu'il avait déjà fait ou ce pourquoi on sait qu'il est génial. Il s'agissait d'oser explorer un autre territoire, plus émotionnel, et lui, en tant qu'acteur, quelque part, de lâcher prise sur tout ce qu'il connaissait de lui-même, y compris, pour tenter d'aller dans cet endroit d'extrême vulnérabilité, d'extrême fragilité. Et je crois que c'est ça qu'il a saisi, en fait, dans ce projet. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu tant d'admiration pour lui. Il a 83 ans, et il pourrait se contenter, en fait, de faire des choses plus faciles. Et non, il a été cet artiste qui décide de se mettre en danger, profondément, parce que c'était pas un tournage si
vous
facile.
Vous êtes engueulé?
Ça nous est arrivé de nous engueuler, mais d'une façon générale, c'était très tendre, très aimant, parce que faire un film, c'est aussi une aventure affective, et ça ne peut pas être autrement. Donc ça a été très doux, tendre et joyeux. Mais il y a eu des moments de confrontation. Et quand Anthony Hopkins n'est pas content, les murs tremblent.
Vous, non?
Non, moi, je suis plutôt d'un tempérament calme. Mais j'avais tellement... Comment dire? Je savais pourquoi je voulais faire ce film. Et donc, j'ai essayé de ne pas dévier, en fait, de mon intuition, de mon désir. Et c'est la raison, parfois, de ces conflits. Mais aussi, je crois que c'est ce qui l'a rassuré, de sentir que...
Qu'il y avait en face de lui une volonté féroce.
Oui, c'est-à-dire que...
Et tranquille.
Tranquille.
Une force tranquille.
dans la mesure du possible. Mais avant tout, voilà, j'ai le souvenir très reconnaissant de sa générosité, parce qu'il est allé dans des endroits pour, comment dire, approcher des émotions qu'on ne lui connaissait pas. Je pense qu'il était des émotions que lui-même ne connaissait pas véritablement, pour tenter de faire quelque chose qui soit brûlant, qui soit sincère, et qui soit vrai. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas... Le risque aurait pu être de tenter d'imiter. Vous voyez, d'imiter un vieux monsieur avec la maladie, et de s'en sortir, mais de faire quelque chose qui ne brûle pas des émotions vraies. Et donc, l'idée a été de tenter de le priver, quelque part, de la protection qu'apporte un personnage de fiction, et d'être lui-même en face de la caméra, avec ses émotions, ses peurs, et son sentiment de mortalité, puisque c'est de ça dont il s'agit,
oui,
au fond.
Et la dernière scène est particulièrement bouleversante. Vous restez avec nous dans un instant. Comme Anthony Hopkins, les plus grandes stars, ben, elles se lèvent toutes pour Florian Zeller. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL avec Florian Zeller et Anaïs Bouton.
Je crois entendre.
Cet air magnifique qui revient comme la mer dans votre film, Florian Zeller. Vous avez donné à Anthony Hopkins son deuxième Oscar. Mais avant lui, les plus grands acteurs ont voulu jouer avec vous, Isabelle Huppert, ou pour vous, Pierre Arditi, Lucchini. On en entend un ou deux.
Florian Zeller a écrit cette pièce en pensant à moi, parce qu'il sait que je suis un spécialiste du mensonge, c'est-à-dire de la vérité. C'est très philosophique.
Le propos de Zeller, c'était de rendre heureux les gens en les faisant rire, sans aucun métalangage, sans aucune volonté autre que de les divertir.
Alors là, on parle de votre carrière au théâtre. Hein. On s'est un peu éloigné de votre film. Arditi, Lucchini. Quels sont les acteurs avec qui vous avez encore envie de travailler pour... Pour qui tailleriez-vous un rôle sur mesure?
C'est une question importante pour moi, parce que je m'aperçois que l'amour, en fait, des acteurs, ou l'admiration pour les acteurs, a été pour moi un vrai moteur. J'aime les regarder, travailler avec eux, partager une expérience avec eux. Peut-être Isabelle Huppert qui a joué la mère.
Elle a joué la mère à New York, anglais.
En anglais, elle est, c'est là, une actrice tellement courageuse, parce que de jouer en anglais à Broadway, c'est, quand on est français, c'est très, très périlleux.
Alors attendez, elle parlait de vous. On a un petit son d'Isabelle Huppert qui
the
parle de vous.
The part of a trilogy, the father, the son and the mother. And the son is really good too. It's a wonderful play. He's a really great writer.
Il est vraiment un grand auteur de théâtre. Voilà Isabelle Huppert qui vous répond. Alors ?
Mais j'ai été très gâté de travailler avec elle. Je l'ai aimée passionnément. On a partagé cette aventure tous les deux à New York. On a dû convaincre beaucoup de gens pour faire ça. Et on l'a fait ensemble avec beaucoup de désir, d'espérance et de joie. Et c'était une expérience de théâtre très puissante et que j'ai adorée. Donc réécrire quelque chose pour elle, ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup.
Et un autre acteur ou une autre actrice ? Vous aimez les femmes aussi beaucoup, non ?
Vous voulez dire les actrices ?
Oui, bien sûr. Non, vous êtes arrivé à la littérature par les femmes. C'est les femmes qui vous ont donné envie de lire. C'est les femmes qui vous ont donné des livres.
Oui, mais je pourrais dire ça aussi des hommes en réalité. C'est souvent des rencontres, ça peut être des rencontres amoureuses, mais des rencontres dans la vie qui soudain nous désigne un territoire qu'on avait négligé ou qu'on connaissait pas ou qu'on n'avait pas eu la chance de découvrir jusque-là. C'est souvent des accidents un peu qui sont heureux dans la vie. Le premier acteur avec lequel j'ai travaillé, pour lequel j'ai écrit, c'était Depardieu. Et c'était pour un livret d'opéra. Oui. Et il était... tout de suite, j'ai été connecté à cette joie singulière d'avancer aux côtés de quelqu'un qu'on admire et d'écrire pour lui. Vous savez, écrire pour un acteur, surtout quand c'est Depardieu, c'est comme un peu, j'imagine...
Quel âge vous aviez ?
J'avais 22 ans, 23 ans.
Incroyable, quand même.
Oui, c'était...
Il ne vous a pas mangé, l'ogre ?
Non, j'étais assez intimidé parce que je l'admirais beaucoup. C'était une admiration qui venait de l'adolescence et des grands rôles comme Cyrano de Bergerac qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Et donc, soudain, de pouvoir... ce moment assez beau dans la vie quand on peut régler des comptes avec les admirations de l'enfance ou de l'adolescence. Et j'ai aimé passionnément travailler avec lui, il m'intimidait un petit peu. Et je me figurais que c'était un peu comme écrire pour de la musique. Vous savez, quand on a... J'imagine qu'écrire pour un piano, pour un violon, ce n'est pas du tout le même travail d'oreille. Mmh. Et d'écrire pour quelqu'un comme Depardieu, ou comme Isabelle Huppert, ou Pierre Arditi, c'est précisément avoir déjà une voix, un rythme, une présence à l'oreille. Et en fait, je m'aperçois que c'est ça que je leur emprunte, en fait, pour me permettre d'écrire. Souvent, ce sont les acteurs qui m'emmènent quelque part.
C'est pour ça que vous écrivez un rôle pour quelqu'un ?
Je crois, oui. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse résonance avec quelque chose que je porte ou que j'essaie d'explorer ou de dire. Mais souvent, je le dois à l'acteur parce qu'il m'emmène, en fait, en tout cas dans mon fantasme, vers la pièce qui est en train de s'écrire.
C'est beau quand même.
Mais c'est un processus qui s'impose à moi en réalité. Ouais. Par exemple, Le Père, je l'ai écrite, cette pièce, en pensant à Robert Hirsch, qui était pour moi l'un des plus grands acteurs de théâtre. Et je voulais tellement travailler avec lui que j'ai écrit cette pièce sans vouloir traiter de ce sujet-là. C'est son corps, sa voix, sa façon si singulière d'être au monde et le fait qu'il avait déjà 86 ans, qui m'ont finalement conduit dans ce labyrinthe mental et émotionnel qui est devenu Le Père, plus que le désir de traiter d'un sujet ou d'Alzheimer ou de quoi que ce soit.
Et vous l'avez redonné ce rôle à Anthony Hopkins pour votre premier film. Allez, dans un instant, le rappel des titres. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
RTL, il est 13h.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Florian Zeller et Anaïs Bouton.
Et le rappel des titres avec vous, Hortense Crépin. Rebonjour, Hortense.
Rebonjour, Anaïs. Et on commence en prenant tout de suite la direction de la Porte d'Auteuil.
Roland-Garros 2021.
C'est sur RTL.
Et on vous retrouve, Isabelle Langer, un gros programme cet après-midi sur les cours avec un très, très beau casting.
Un beau casting a commencé sur le cours Philippe Châtrier par l'Ukrainienne Svitolina. Trois fois quart de finaliste ici à Roland-Garros, sous les yeux de son chéri, celui qui l'a demandé en mariage il y a quelques semaines, le Français Gaël Monfils, qui est là avec sa famille pour la soutenir. Et elle en a bien besoin puisqu'elle est menée 4-3 par la Tchèque Krejčíková, 25 ans, 33e mondiale. Elle mène 4-3 Krejčíková. Elle est au service pour se détacher et confirmer son break. Elle pour mener 5-3. Sur le court, Suzanne Lenglen, Schwartzmann, demi-finaliste l'an passé ici, 10e mondial, l'Argentin mène 6-4, 6-2, 4 jeux à 1 face à 1, l'un des vétérans du circuit, l'Allemand Cole Schreiber, 37 ans. Et sur le court, Simone Mathieu, eh bien Sloane Stephens, qui avait été finaliste ici même il y a quelques années, mène 6-3, 6-5. Elle est au service pour remporter son match face à la Tchèque Muchova. À tout à l'heure.
Merci Isabelle Langer, on vous retrouve dans une demi-heure. Dans le reste de l'actualité, des états généraux de la justice pour faire face aux critiques contre l'institution. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron. Le chef de l'État souhaite aussi que le garde des Sceaux rende désormais compte tous les ans au Parlement de la politique pénale du gouvernement. Mimi Marchand, la papesse de la presse People, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Et cela dans le cadre du financement libyen présumé illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et puis dans 6 jours, l'Euro de football démarre. Ne manquez pas ce soir les confidences de Didier Deschamps à Philippe Sanfourche et Christian Olivier. Ce sera à 18h30 dans On refait le match.
Florian Zeller, vous faites la pluie et le beau temps sur toutes les grandes scènes de théâtre dans le monde. Alors c'est l'heure de votre bulletin météo.
Après-midi ensoleillé pour une large moitié ouest et le sud du pays où l'on aura juste à redouter quelques petites averses locales en Corse et sur les Pyrénées. Dans l'est en revanche, le ciel restera chargé de nuages, d'averses et des orages sont attendus en montagne, notamment dans les Vosges et les Alpes du Sud. Les températures seront comprises entre 16 degrés à Dunkerque, 30 degrés à Nîmes et il fera 23 degrés à Paris, Rennes et Toulouse.
C'est magnifique. Écoutez, vous avez fait un opéra, 5 livres, 11 pièces. Je pense que la météo est faite pour vous aussi. C'est quand même incroyable d'avoir tous ces talents.
Merci.
Le journal inattendu de Florian Zeller avec Anaïs Bouton sur RTL.
Regardez le ciel parce que vous avez fait la météo, mais vous regardez le ciel parce que c'est vous qui avez écrit cette chanson pour Christophe. C'était votre ami, Christophe.
Christophe, c'était un ami tendre et cher même. J'ai passé beaucoup de moments avec lui. Je l'aimais beaucoup. On s'est rencontrés. Il a fait les musiques de certains de mes spectacles. Donc on avait aussi ce partage artistique. Et voilà, il y a quelque chose chez lui qui me troublait, qui me séduisait, c'est-à-dire cette obstination à être qui il était, lui-même, n'en déplaise au reste du monde. Il était très singulier, différent, et ça ne lui faisait pas peur.
Il était très insomniaque, vous l'êtes aussi ?
Je le suis aussi, oui.
Donc vous travaillez la nuit ?
De moins en moins, en vieillissant.
Très très vieux, 41 ans, je rappelle. Au fond, on a l'impression, est-ce que vous n'êtes pas un inquiet à qui tout réussit ?
En tout cas, je suis un inquiet, oui, je suis animé par une drôle d'inquiétude, mais que j'essaie de combattre par l'enthousiasme, par l'espérance, par le fait d'être obstinément comme ça tourné vers ce qui pourrait arriver. Et donc c'est pour ça que je suis passionné par l'idée de porter des projets, de faire advenir des choses auxquelles je rêve, peut-être comme un contrepoint à une inquiétude un peu sourde.
Alors vous avez fait advenir votre rêve de Father, votre premier film avec Anthony Hopkins. Et alors l'un des personnages du film, c'est l'appartement. Il semble mouvant. Il participe de l'expérience du spectateur parce que c'est ni tout à fait le même, ni tout à fait une autre. Il était extrêmement important, cet appartement. Le décor, c'était important pour vous. Vous y avez été extrêmement méticuleux.
Oui, c'est-à-dire qu'en général, quand on veut adapter une pièce de théâtre au cinéma, on écrit des scènes à l'extérieur pour tenter de donner cette dimension cinématographique. Moi, j'ai voulu faire l'inverse, c'est-à-dire de rester dans un espace, mais pour que cet espace devienne un espace mental et que ça devienne une proposition cinématographique. Mon objectif, c'était que ce décor devienne une sorte de labyrinthe et que ce soit le spectateur lui-même qui a se frayer un chemin dans ce labyrinthe. Mon espérance était que le spectateur soit dans une position active, qu'il ne s'agisse pas simplement de suivre une histoire déjà racontée, mais qu'il y a un espace laissé pour lui dont il doit s'emparer pour tenter de trouver le sens. Et ça, c'est quelque chose que je trouve ludique déstabilisant et assez singulier, en fait, au cinéma, de devoir faire partie de l'histoire.
Et parfaitement réussi grâce à Peter Francis, qui est un excellent décorateur. Alors, vous auriez peut-être pu, ou peut-être que pour votre prochain film, vous pouvez penser à Urs Fischer, parce que c'est un artiste contemporain que vous aviez envie de nous faire découvrir. Vous aviez envie de nous parler de cet artiste suisse. Ses œuvres, enfin, une de ses œuvres est exposée en ce moment dans la rotonde du très beau nouveau musée Pinault, Bourse du Commerce. Monique Younes est partie sur les traces de ce plasticien remarquable. Monique Younes sur RTL.
Urs Fischer a fait parler de lui en 1996 quand il a construit pour sa première exposition un chalet suisse en miche de pin. Depuis, chacune de ses œuvres intrigue, amuse, dérange, déplaît ou fascine. Urs Fischer, aujourd'hui âgé de 48 ans, est devenu une star, un trublion dans le marché de l'art. Ses installations les plus spectaculaires sont évidemment ses statues monumentales en cire qui se consument comme des bougies. À la Bourse de Commerce, qui abrite la collection Pinault, c'est une reproduction de l'enlèvement des Sabines de Jean de Bologne que l'on voit fondre au milieu de la rotonde. Cette sculpture fait 4 mètres de haut. François Pinault, le maître des lieux, l'a acquise en 2010 lors de la Biennale de Venise.
Quand j'ai vu cette rotonde centrale en béton, j'ai pensé à cette œuvre. Elle vient d'Italie et ici c'est le palais de Catherine de Médicis. C'est elle qui l'a fait construire au XVIIe.
Et pour que la sculpture d'Urs Fischer s'épanouisse dans cette majestueuse rotonde aménagée par l'architecte japonais Tadao Ando, l'artiste a procédé à quelques ajustements, m'a précisé l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui conseille aujourd'hui François Pinault pour sa collection.
Il a transformé cette œuvre de façon à ce que son échelle corresponde à l'échelle formidable de la rotonde centrale de la Bourse de Commerce, qui est dominée par une coupole qui s'élève à 30 mètres. D'autre part, comme les peintures du plafond, les peintures historiques représentent le commerce de la France avec toutes les parties du monde, il a également souhaité, en ajoutant des œuvres nouvelles, des sièges de toutes les parties du monde, finalement répondre à la mondialisation du 19e siècle par une sorte de signal de la mondialisation du 21e siècle.
Depuis l'ouverture de la Bourse de Commerce, le 22 mai dernier, Urs Fischer propose donc une véritable expérience artistique, insiste François Pinault.
En fait, c'est une allégorie de l'impermanence des choses, du temps qui passe, de la vanité, c'est un message.
De l'art qui se consomme à l'art qui se consume, la question essentielle et métaphysique qui se pose à l'écrivain Florian Zeller, est-ce que l'écriture d'un livre consomme le sujet d'un livre? Autrement dit, les livres sont-ils faits pour être consommés ou pour se consumer, Florian Zeller?
Merci Monique Younes de la rédaction de RTL. Alors Florian Zeller,
C'est toute la question de cette œuvre d'art, parce que l'art, justement, l'espérance qui se tient derrière l'élan artistique, c'est toujours de résister à quelque chose, résister au temps. Et là, il propose pratiquement une expérience inversée. Moi, j'ai été saisi par cette œuvre d'art. Je l'ai découverte à la Bourse du Commerce et j'ai d'abord cru que c'était une sculpture du XVIIe siècle en marbre, jusqu'à apercevoir justement cette petite flamme tout en haut du bras. Et j'ai compris qu'en réalité, c'était une bougie et que ce que j'avais d'abord pris pour quelque chose qui allait rester, demeurer, comme le demeure, les sculptures et le marbre, allait finalement se consumer sous mes yeux. Et c'est précisément ce qui m'a interpellé. C'est-à-dire qu'il s'agissait pas, là aussi, juste d'être passivement en train de contempler une sculpture, mais c'est une expérience. Et soudain, ce qu'on avait pris pour acquis semble s'échapper, et c'est autre chose qu'on a devant les yeux. Je crois que c'est le rôle le plus simple et le plus noble des œuvres d'art, que de nous mettre dans une position où on s'interroge sur ce qu'on croyait être certain.
Vous restez avec nous dans quelques instants, la suite du journal inattendu de Florian Zeller.
Le journal inattendu de Florian Zeller
avec Anaïs Bouton sur RTL.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne.
Alors, quand vous n'étiez personne, ou plus ou moins personne, de bonnes fées se sont penchées sur votre berceau. Florian Zeller, on les écoute.
J'ai écrit quelques pièces. C'est un métier extrêmement amusant et très agréable, parce qu'on est plusieurs à le faire ensemble, on travaille ensemble, on travaille en équipe. Le côté ping-pong dans le théâtre qui est beaucoup moins impressionnant que qu'un livre. Un livre, c'est une liberté épouvantable, on peut faire ce qu'on veut, c'est beaucoup plus impressionnant qu'une pièce.
Le théâtre, c'est le rugissement maîtrisé. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est donc, on est vraiment dans l'ontologie, on est dans le commencement avec le théâtre. Et je trouve ça super.
Alors, on vient d'entendre deux grandes voix, Françoise Sagan, Philippe Tesson, auxquelles, évidemment, on pourrait rajouter celle de Jacques Chancel, à qui vous aviez consacré un documentaire. Des voix familières qui ont encouragé le jeune écrivain, le jeune dramaturge que vous étiez. Un petit mot sur ces personnalités ?
Ce sont des personnalités très différentes. Sagan, elle, indirectement, je lui dois beaucoup parce qu'elle était celle qui devait écrire le livret d'opéra dont je parlais tout à l'heure et parce qu'elle devait, pour une raison qui lui était personnelle, ne plus le faire. Elle m'a recommandé pour que je l'écrive. Et donc, d'une certaine façon, c'est grâce à elle que je me suis retrouvé dans une situation avec, sans le savoir, en train d'écrire du théâtre. Et j'ai découvert ainsi, et donc par accident, la passion pour le théâtre. Philippe Tesson, il est ce critique de théâtre et éditeur aussi. Il est devenu mon éditeur de théâtre et c'est un ami très proche et j'ai toujours été plein d'admiration pour ça, son intelligence, sa vitalité, sa connaissance du théâtre. Et donc, il a été très important dans mon chemin vers le théâtre.
Et puis Jacques Chancel, un peu.
Et Jacques Chancel, c'était un ami dont j'admirais profondément la curiosité qu'il avait toujours pour l'autre, pour ce qui n'était pas lui-même, pour cette altérité, cette gourmandise à comprendre les autres, la façon dont ils ont de penser, même et surtout quand les autres ne pensent pas comme lui. Et j'ai toujours été impressionné par cette capacité à aller vers l'autre.
Alors, quatrième parrain, et non des moindres, mais l'académicien Jean-Marie Roire, qui a aussi cru en vous hein, lorsque vous débutiez. Bonjour Jean-Marie Roire.
Bonjour.
Vous êtes romancier, écrivain, essayiste. Qu'est-ce qui vous a plu chez Florian Zeller ?
Ce qui m'a plu, c'est son talent. C'est son talent, et ensuite, après le talent, j'ai découvert l'homme, l'intelligence profonde, Florian Zeller, et puis le charme de sa personne. Mais enfin, au départ, c'était le talent comme romancier. Et puis, donc, il se trouve que j'étais dans un prix littéraire, le prix Interallié, qu'il a eu ce prix, que j'ai défendu, voilà. Non, c'est le talent avant tout, mais aussi, ce qui ne gâte rien, le charme de la personne et l'intelligence de la personne.
Donc il est l'un de ces amis qui enchantent la vie, pour reprendre le titre d'un de vos livres.
Oui, c'est vrai que les écrivains nous aident à vivre. Je crois que dans un monde tellement où il y a si peu d'espérance, je crois que c'est heureusement, il y a l'art et la littérature.
Alors vous venez d'offrir au Petit Palais 12 œuvres de votre famille. Votre père était Augustin Roire. L'exposition s'appelle « La peinture en héritage ». Donc il s'agit aussi d'une histoire de père d'héritage, comme dans le film de Florian Zeller.
Oui, sauf que mon père n'a pas eu le destin tragique du père de Florian Zeller. Enfin, du père qui est incarné dans le film de Florian Zeller. Mon père est un homme très différent de moi, parce que c'est un homme douloureux, un homme, non pas que je ne sois pas douloureux à certains moments, mais c'est un homme surtout qui était très discret, qui ne se mettait jamais en valeur, il ne serait jamais venu à RTL, jamais ne se serait présenté à l'Académie. C'est un homme, c'était le contraire de moi, c'était le contraire d'un arriviste. Et d'ailleurs, c'est à cause de lui que je suis.
Un arriviste, vous aussi ?
À cause de lui. Non, mais un ambitieux, disons, quelqu'un qui a envie d'exister dans la société. Mon père était mal à l'aise dans la société, donc il exposait très rarement. Et voilà. Mais c'est pour ça que les gens sont. Finalement, c'est une redécouverte. Voilà, c'est une redécouverte. Et cette exposition au Petit Palais. Et je crois, on redécouvre un peintre qui était un peu marginal, parce qu'il était, c'était un peintre figuratif, un peintre qui, au fond, aimait les primitifs, Holbein, Dürer, et qui n'est pas du tout dans le mouvement, si vous voulez, de l'époque, de l'abstrait.
Florian Zeller.
Oui, Jean-Marie a écrit un texte sur ce sujet qui s'appelle « Une famille dans l'impressionnisme », dans lequel il raconte justement son regard sur son père et sur cette différence que tu viens d'expliquer. Et moi, que je suis allé voir l'exposition, et j'ai été bouleversé par le regard simple et ce sentiment de bonheur qu'il arrive à nous transmettre. Il y a notamment des peintures dans lesquelles on le voit représenter son propre enfance, enfin Jean-Marie bébé ou le frère de Jean-Marie. Et il y a quelque chose de très simple, de très ancien dans ce geste. On imagine un père porter le regard sur son enfant. Il y a quelque chose, moi, qui m'a touché beaucoup.
Il y a aussi, je crois que c'est votre mère qui est sur ce lit, allongée sur le ventre, qui s'appelle La Tristesse. Ou...
Oui, La Grimace y Penas. Alors c'est un très beau, très symbolique, parce que c'est à l'issue, disons, d'une petite un problème de couple. Et ils sont un peu, j'allais avoir des problèmes entre eux. Et donc il a peint ce tableau. Et à l'issue de cette dispute, ils se sont réconciliés. Et c'est comme ça que je suis né.
Donc, vous voyez,
il aurait pu l'appeler l'origine du monde.
Oui, c'est, voilà, ça. Voilà.
C'est vraiment l'origine du monde, mais enfin, c'est plus pudique que l'origine du monde.
Et ça doit être singulier de voir sa propre mère dans une position qui crée le rêve et le désir, presque.
Oui, mais c'est peut-être ça, mon éducation artistique. J'ai toujours vu les femmes nues à la maison. J'ai dans ma chambre le portrait d'une femme nue qui est ma mère. Alors les gens me disent comment vous avez votre mère nue. Mais c'est ça qui était très curieux parce que c'était une famille assez catholique et en même temps avec cette ouverture à l'art. Et c'est vraiment quelque chose d'important, ce qu'on comprend mal, c'est que le catholicisme n'a pas seulement été une répression, ça a été aussi une ouverture extraordinaire.
Il suffisait de s'y confronter en fait.
Non, il suffisait. En effet, non, mais il suffit de voir. Les gens ne voient pas très bien ce qu'a apporté, ce que je dis dans mon dernier livre, et ce pays des hommes sans Dieu. C'est que, justement, la civilisation française a été constituée par une grande partie par le christianisme, mais elle s'est illustrée parce qu'elle avait repris une idée extraordinaire de la Grèce antique, qui est la vérité par la beauté.
Ah, la beauté aussi. Hein ?
Oui, mais je crois que c'est ce qui aussi anime la vie de Jean-Marie, ce rapport à la beauté, d'essayer de chercher la beauté sous toutes ses formes.
Et la vérité.
Et la vérité, de temps en temps.
Voilà, parce que je crois qu'il n'y a pas de beauté sans vérité. Et je crois qu'en réalité, cette vérité, c'est l'expression de cette vérité. D'ailleurs, vous pouvez remarquer les très belles phrases. Quand Gary écrit « Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais », c'est une belle phrase. Mais elle est belle parce qu'elle est vraie. Or, je me méfierais, moi, de belles phrases qui ne sont pas vraies, parce que c'est de la rhétorique.
Merci beaucoup, Jean-Marie Roard, d'être passé dans le journal inattendu de Florian Zeller. Je rappelle que vous avez donc fait cette donation magnifique. Merci pour ça. Merci beaucoup.
C'est une habitude de famille. Vous savez, dans la famille, on a toujours donné. On a été les mystiques de l'art. On n'a jamais été les commerçants.
Et puis je rappelle aussi le titre de votre nouvel ouvrage, Le pays des hommes sans Dieu. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission de Florian Zeller. Vous restez avec nous. Quelqu'un a un message personnel pour vous, Florian Zeller. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Florian Zeller.
Avec Anaïs Bouton sur RTL.
Le journal inattendu de Florian Zeller.
Avec Anaïs Bouton sur RTL.
Florian Zeller, est-ce que vous connaissez cette chanson de Paume ? Elle parle de ce qui arrive à Anthony Hopkins dans votre film The Father, Oubliez tes enfants, ton prénom, le chemin de ta maison.
Non, je ne la connais pas.
Et c'est une très belle chanson. Vous avez écrit ce rôle pour Anthony Hopkins, mais il y a un autre acteur qui est lié à vous de façon, je ne sais pas comment dire, enfin, il est lié à vous, c'est Pierre Arditi. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un mot de votre collaboration avec lui ?
Oui, Pierre Arditi, j'ai écrit une pièce d'abord pour lui qui s'appelait La Vérité, qui était ma première comédie en fait. Et c'est lui qui m'a, comme je disais tout à l'heure que les acteurs avaient une importance pour moi particulière, c'est lui qui m'a donné le goût, le désir d'explorer un peu cette dimension de la comédie. Je me souvenais de lui virtuose dans certaines pièces de Guitry. Il est le maître de la mauvaise foi et c'est finalement animé par ce désir de travailler avec lui, que j'ai écrit cette comédie, La Comédie, et ça a été un bonheur tout particulier de rire avec lui et avec le public pendant de longs mois.
Allô, le maître de la mauvaise foi ?
Bah, il paraît, c'est ça, oui. Il a raison, hein, honnêtement.
Il a raison ?
Ah, oh, bah oui. Heureusement, d'ailleurs, qu'il a raison, parce que c'est quand même les meilleurs rôles. Hein, bon.
Quel est votre meilleur souvenir sur le Zèbre Zeller ?
Mais je n'ai que des merveilleux souvenirs avec le Zèbre Zeller.
Ouais.
Oui, parce que le premier souvenir que j'ai, c'est son écriture. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand il écrit une réplique, une ligne, un mot, rien n'est inutile. Et ce qui est plus beau encore, même si ça semble parfois minimaliste, c'est que ce qui est écrit sert de tremplin à quelque chose qui emmène ailleurs, qui n'est pas dit, qui n'est pas prononcé, mais qui permet d'être joué par un acteur si tant est qu'il ait les moyens de le faire.
Enfin, par un grand acteur comme vous, hein.
Oh bah moi j'en sais rien, j'ai pas ce que j'ai pu, mais dans la vérité j'étais pas mal.
Ah, vous étiez pas mal, non?
Non, il était exceptionnel, moi je suis allé le voir tant de fois et chaque fois j'étais heureux de le voir. Il y a peu d'acteurs qui ont la capacité d'emmener un texte à ce niveau de jubilation, d'arrière-plan, comme le disait Pierre. Tout est beaucoup plus facile quand on a la chance de travailler avec de très grands acteurs et Pierre Arditi est l'un des plus grands sur scène et vraiment j'ai un souvenir très fort de ces partages.
Ouais, merci beaucoup Pierre Arditi. Vous aviez quelque chose à ajouter?
J'ai quelque chose à ajouter, absolument. Parce que sinon, je manquerais à toutes mes envies et tous mes désirs. J'ai vu le film de Florian, le père, avec Anthony Hopkins, qui est un de mes dieux. J'avais vu la pièce avec Robert Hirsch, qui est le dieu de mon enfance, qui était formidable. Le film me semble supérieur parce qu'il est, non pas parce que l'adaptation est meilleure, mais parce qu'il est plus trouble. Et donc on est comme le personnage principal, on ne sait plus où on est. Et ensuite, si on rend hommage à l'auteur Florian Zeller, il faut rendre un hommage encore plus grand au réalisateur, dont Pascal Thomas, le cinéaste, me disait hier, qu'il a sauvé le cinéma français depuis 10 ans. Quand il est allé voir ce film, il a été ébloui. Ce qu'il y a d'admirable dans ce film, c'est qu'à la fois il raconte une histoire, il y a des moments même où on s'amuse d'une manière jaune, mais en même temps, il y a quelque chose qui est bergmanien dans ce film, en particulier avec ses plans fixes dans lesquels apparemment il ne se passe rien et pourtant la vie continue. Et ça, c'est absolument majeur. Alors je peux lui dire à ce type, à ce jeune type qui va vivre bien plus longtemps que moi, d'abord qu'il faut que moi aussi un jour je joue le père, parce que je vais avoir l'âge de le faire. Et ensuite, qu'il faut qu'on bouffe ensemble parce que ça me manque.
Voilà. C'est pas si vous voulez bien m'inviter.
On dit des acteurs qu'ils ont une palette large. La palette de Florian Zeller est infinie.
C'est vrai. Merci Pierre. Merci,
merci beaucoup. Merci infiniment Pierre Arditi. Merci. Salut. Florian Zeller d'avoir été l'invité du journal inattendu The Father. C'est votre premier film à l'affiche en ce moment avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. Vous travaillez déjà au prochain film, à l'adaptation de votre pièce Le Fils avec Hugh Jackman. Vous êtes donc définitivement adopté par Hollywood. Alors en clin d'œil et pour finir cette émission, la musique d'un film bouleversant aussi, c'est La La Land. Dans un instant, un point sur Roland Garros. Cette émission, le journal inattendu, est à retrouver en podcast sur rtl.fr. Dans un instant aussi, le nouveau confidentiel consacré à Georges Clooney et Jean-Alphonse Richard. Et puis la semaine prochaine, Ophélie Meunier accueille Mathilde de Seigny à 12h30 pour un nouveau journal inattendu. On se quitte avec La La Land. Excellent week-end sous le soleil et sur RTL.
RTL, le journal inattendu.
Roland Garros 2021,
c'est sur RTL.
Et on retrouve tout de suite Isabelle Langer, porte d'Auteuil à Roland Garros. Alors c'est quoi le problème? Le programme? Pas le problème, hein, cet après-midi.
Il y a un problème aussi pour Elina Svitolina en ce moment sur le cours central. La numéro 6 mondiale est menée 6-3, 3 jeux à 1 par celle qui est en forme en ce moment sur terre battue, Barbora Krejčíková. Pardon, il y a beaucoup de consonnes.
C'est pas facile non plus, hein, Isabelle.
Voilà,
hein.
La Tchèque qui a remporté la semaine dernière le tournoi de Strasbourg. Elle en est à 7 victoires de suite, hein, en 2 semaines. Et pour le moment, mais c'est le Clifour. La course en tête, elle mène donc 6-3, 3 jeux à 1. Et la gagnante retrouvera en 8e de finale l'américaine Sloane Stephens, qui l'a emporté face à la Tchèque Muchova. Qualification également de l'Argentin Schwartzmann, demi-finaliste ici l'an passé. On attend encore Djokovic, Nadal et Federer aujourd'hui à Roland.
Pas facile à dire tous ces noms, Isabelle. Hein. Bravo, merci infiniment. On vous retrouve pour un point Roland Garros toutes les demi-heures sur RTL. Passez tous un très bon après-midi. Et tout de suite, Jean-Alphonse Richard, confidentiel avec Georges Clooney.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.